100 ans d'histoire. Innovation scientifique, relations internationales et succès culturel. Jean Saraméa, historien, raconte les années décennales anniversaires de 2024.
Bonjour à toutes et à tous. Un bon anniversaire à toutes celles et ceux qui ont déjà 70 ans ou qui vont se souvenir en 2024 de l'année 1954. Alors, au niveau mondial, bon, c'est la fin du McCarthyisme aux États-Unis. On en parle souvent parce que McCarthy a provoqué la ruine culturelle de toute une série d'acteurs, sinon de personnel politique aux États-Unis, en les accusant d'avoir été pro-communistes sur la base de simples déclarations écrites ou orales quand les États-Unis étaient alliés avec Staline, quand même, jusqu'en 45. Bon, McCarthy a fait l'erreur, en 1954, de s'attaquer à des hauts gradés de l'armée américaine. Et alors là, le président de la République, Eisenhower, a mis fin à sa rage dénonciatrice, qui s'est arrêtée. McCarthy est mort quelque temps après de cirrhose du foie et complètement sous. Autrement, en Europe, eh bien, la France et le Royaume-Uni ont de graves difficultés dans leur empire colonial. Il n'y a pas que la France. La Grande-Bretagne a des difficultés au Kenya, et ça va durer encore 8-9 ans. Et au niveau européen, on traitera la France après, c'est quelque chose de très important. L'Assemblée française, donc les députés, mettent fin au projet qui avait été signé et mis en œuvre d'une armée européenne, ce qu'on appelait la CED, la Communauté Européenne de Défense. Ça avait fracturé, mais alors fracturé, tous les partis politiques français. Seule l'extrême gauche et l'extrême droite étaient viscéralement opposés, soit par nationalisme, soit pour l'extrême gauche, parce qu'évidemment c'était une armée contre l'Union soviétique, on était en pleine guerre froide. Mais il n'y a jamais eu d'armée européenne. Et la question ressurgit en ce moment, comment coordonner, si le danger se fait pressant, comment coordonner des armées européennes? En dehors de l'OTAN, il n'y a pas d'armée européenne à cause de la France en 1954 qu'il a décidé ainsi. Alors la France, le nouveau président de la République entre en fonction, c'est René Coty, ce sera le second et dernier président de la 4e République, au centre droit. Le chef du gouvernement est Joseph Laniel, qui laissera sa place après la défaite de l'armée française en Indochine à Dien Bien Phu au printemps à Pierre Mendès France, du centre-gauche, radical, au sens ancien du terme, qui aura fort à faire pour, en juin et en juillet, négocier à Genève la fin de la guerre d'Indochine, le départ de l'armée française, ce qui est extrêmement compliqué. Pour éviter une guerre type guerre d'Indochine, Pierre Mendès France va accorder une large autonomie à la Tunisie. Il se rend, c'est un protectorat, c'est pas une colonie, il se rend auprès du bey de Tunis, accorde aux grandes dames de la droite française qui va l'accuser de brader l'Empire, et il accorde une large autonomie à la Tunisie, ce qui va en quelque sorte calmer le jeu qui commençait à être très délicat. Par contre, au Maroc, c'est beaucoup plus délicat parce que la France a arrêté le sultan. Le Maroc est un protectorat. Il y a les autorités françaises, mais il y a aussi les autorités marocaines. Et le sultan ayant été arrêté et déporté par la France, cela devient extrêmement délicat. Et puis, alors, le 1er novembre, ce sera l'insurrection dans certaines parties de l'Algérie. L'Algérie, ce sont des départements. gérés par le ministère de l'Intérieur. C'est pas un protectorat. Le Sahara est à part. Mais cette année 1954 est terrible parce que c'est la défaite en Indochine et le début de ce qu'on appellera beaucoup plus tard la guerre d'Algérie, qui ne sera grave qu'à partir, disons, de fin août 55. Voilà. Dans le domaine sportif, la France gagne le tournoi des cinq nations en rugby. L'Allemagne est championne du monde de football. Le Tour de France, et il le sera plusieurs fois, est remporté par Louison Bobet, qui par la suite créera un centre de thalassothérapie en Bretagne. La Formule 1, eh bien, c'est Juan Manuel Fangio, célèbre argentin, qui remporte la Coupe du Monde donc de course automobile. Et le championnat du monde de boxe est remporté par le français Robert Cohen. Au niveau culturel, on admire le grand film de Sacha Guitry, Si Versailles m'était compté. On peut écouter les débuts et les premiers succès d'Elvis Presley aux États-Unis. On peut aller voir le film de Howard Hawks, Les hommes préfèrent les blondes, avec Marilyn Monroe. On peut voir le film Senso de Visconti, ou La Strada de Fellini, qui est récompensé au Festival de Venise. Si on est à Paris, on peut aller applaudir Brassens, qui est une grande vedette, et qui est très honoré à l'Olympia. On peut voir les débuts de Juliette Gréco à Bobino. On peut aller voir le film d'Hitchcock, Fenêtre sur cour, ou de Becker, Touchez pas au Grisby. On peut écouter Annie Cordy, qui est en train de conquérir par son talent, mais par le cœur également, le public français. Bien sûr, on peut rire, aller écouter ou entendre à la radio Fernand Reynaud, Paul Poiret, Michel Serrault, Raymond Devos, Roger Pierre et Jean-Marc Thibault. Oh, avant de terminer cette petite émission, on va écouter les compagnons de la chanson, parce que les années 50, c'est vraiment leur période de gloire. Et dans toute la France, on les écoute. C'est que désormais, il y a les tout premiers transistors, mais ce sont encore des postes sur secteur. Et dans la moindre fermette perdue dans les campagnes françaises, on écoute les compagnons de la chanson. Alors, on va écouter Mon ami, mon ami.
Sur le chemin, je vais tout droit devant moi. Ta roulotte est bien vieille et chaotique à chaque pas, mon ami, mon ami, à chaque pas, mon ami, mon ami. Dis-moi, l'ami, dis-moi, que vas-tu chercher là-bas? Un lit de mousse. Et lisons la plus jolie, la plus jolie, mon ami, mon ami, la plus jolie, mon ami, mon ami. Et toi, non, la plus riche, voudrais trouver un mari. Le mariage, ça me fait peur, car j'ai l'âme.
poussive qui traîne un chariot long, long. Du soleil par-dessus et le long chemin devant. Ma chanson que je donne à toutes les filles de 20 ans. Voilà ma vie, mon ami, mon ami. Voilà ma vie, mon ami, mon ami. Adieu, ami, adieu, c'est le chemin qui m'attend.
Clair de lune.
Donnons quelques jalons dans l'histoire des sciences et de la technologie. En 1954, les États-Unis lancent le premier sous-marin à propulsion nucléaire, sous-marin militaire bien sûr. Et en l'honneur de Jules Verne, ils le baptisent le Nautilus. Les Américains, cette année-là, mettent en service la première calculatrice électronique. Il ne s'agit pas du premier ordinateur, ça date de la Seconde Guerre mondiale, la première calculatrice électronique. Les États-Unis, cette année-là, à Eniwetok, dans l'archipel des Marshall, océan Pacifique, font exploser une bombe H, c'est-à-dire une bombe thermonucléaire, qui a 600 fois la puissance de la bombe d'Hiroshima. Imaginons en 10 ans, en 9 ans. Voilà. Et on sait maintenant qu'à plus de 60 km, des pêcheurs ont été irradiés et sont morts. Parce que ce sont des explosions dans l'atmosphère. Les explosions souterraines, ce sera dans les années 60 et 70. Pour les Américains. Pour la France, ce sera plus tardif. Les Américains font voler pour la première fois le Boeing 707. C'est la course au gigantisme, disons, dans l'aviation civile. Et puis, une date quand même fondamentale qu'on a bien oubliée. Cette année-là, ce sont des médecins et chimistes allemands qui fabriquent le premier vaccin contre la polio. On imagine mal le nombre de personnes dans le monde, y compris en France. Je me souviens, puisque j'ai été enseignant, ces enseignants qui, dans les années 70-80, avaient eu la polio dans leur jeunesse et avaient énormément de mal à traîner une jambe pour rejoindre leur classe. Et on me disait, il a eu la polio. Donc ce premier vaccin, après, il faut évidemment des années pour que ce soit généralisé, sinon rendu obligatoire, c'est l'invention, entre guillemets, allemande en 1954. Au niveau des disparitions célèbres, puisque ce serait un petit peu délicat de choisir des naissances, mais pourquoi pas? Je vous y encourage. C'est la mort du grand architecte Auguste Perret, qui a fait beaucoup d'immeubles en France, et surtout c'est lui qui a reconstruit le Havre, qui avait été rasé par l'aviation américaine en 1944. C'est la mort d'Auguste Lumière, très âgé, un des frères Lumière, un des pionniers du cinématographe français. C'est la mort du syndicaliste français Léon Jouhaud. C'est la mort, toujours dans l'ordre chronologique, de Colette. Colette, qui était originaire de Bourgogne, mais qui a beaucoup vécu à Saint-Tropez, qui a séjourné également à Monaco, et qui, par des romans assez sulfureux depuis les années 20, s'était fait une grande célébrité. C'est la mort du peintre Henri Matisse, ce sont les grands noms du XXe siècle, la mort du peintre André Derain, D-E-R-I-N, du couturier Jacques Fatt, à 42 ans, d'Enrico Fermi, le grand scientifique italien, spécialiste des matières fissiles, qui a quitté l'Italie fasciste et qui a mis tout son savoir au service de la première bombe atomique américaine. Il n'est pas le seul. Mais Enrico Fermi, c'est un des grands physiciens du XXe siècle. Et puis, au niveau de la musique, le grand chef d'orchestre allemand, Furtwängler. Le prix Nobel, cette année-là, a été remis à Hemingway. Et le prix Goncourt a été remis à Simone de Beauvoir pour Les Mandarins. Voilà, donc, je répète, ce sont parmi les très nombreuses personnalités, les très nombreux événements, ce sont des choix personnels à l'occasion, donc, des 70 ans. Je peux dire que j'en ai un peu plus. À bientôt! À toutes et à tous.